spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert.
Bertrand Bunz, votre invité, notre invité, expert comportementaliste pour chiens installé à la chapelle d'Armentières. Alors oui, on parlait de Pâques, on parlait du chocolat, alors ne rigolez pas, ne déconnez pas avec ça parce que c'est sérieux. Même si, alors hors micro, on était en train de discuter ensemble justement de l'alimentation des chiens. Oui. Moi, quand je, voilà, un petit peu plus d'une trentaine d'années, un peu plus de 40 même, c'est vrai que j'ai connu une alimentation pour chiens qui était pas du tout en rapport avec celle d'aujourd'hui.
C'est vrai, il y a une grosse évolution dans l'alimentation.
Une grosse évolution, ouais. En bien, de toute façon.
Alors, oui, alors même si c'est vrai, effectivement, ce sont des aliments dits industriels, aujourd'hui, on est surtout sur des aliments complets.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Donc
c'est
effectivement, quand on fait un bon choix de croquettes, le chien n'a besoin de rien d'autre.
Voilà, et ça, c'est bon pour lui. Alors, Marie-Lise nous a appelé à Lambersart. Bonjour Marie-Lise.
Oui, bonjour.
Alors vous avez un chien et visiblement il y a des petits soucis avec les enfants, hein, c'est ça?
Ah oui, voilà. Quand j'ai des invités et qu'il y a des enfants, alors ils arrivent, ils peuvent grogner dessus en voyant les petits. Et quand, alors je peux l'isoler dans un bureau pendant la soirée, c'est ce que j'ai fait pour lui montrer qu'ils arrêtaient ce comportement. Et je suis allée le chercher dans la soirée en me disant bon, il faut qu'il s'acclimate. Et il était bien avec nous les adultes, et il y a une gamine qui s'est levée pour rejoindre son père, et là, il aboie sur la scie.
Ok. De quelle race de chien il s'agit, Marie-Lise?
Alors, c'est un Royal Bourbon, il vient de La Réunion.
D'accord.
Et ça, c'est 5 ans qu'il est en France. Il est arrivé tout chiot, et quand j'ai récupéré dans la famille d'accueil, il y avait des enfants, et ça se passait bien, ils étaient sur leur téléphone, ils étaient calmes.
Mmh. Ok. Alors, c'est vrai qu'on faisait, on parlait de Pâques et du chocolat, mais ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, y a des enfants qui vont venir certainement dans les foyers, des mamies ou peu importe, hein. Et donc, effectivement, bah oui, parfois on a des chiens qui n'apprécient pas particulièrement plus que ça les enfants. Et je vous dirais, bah, ils ont le droit de pas aimer tout le monde. Par contre, bah, ils ont pas le droit de les mordre.
Ouais.
Voilà, donc, alors, hein, c'est un peu ça, Marie-Lise. Hein. Donc, le fait d'enfermer votre chien dans un bureau, comme vous le disiez, ça ne va pas résoudre le problème.
Oui, c'est parce que précédemment, je l'ai laissé dans l'espace avec nous, et puis ben, il fait peur aux enfants. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, il faut qu'ils comprennent.
Alors, il faut savoir que les morsures les plus graves chez les enfants, c'est entre la période 0-4 ans. Parce que chez les enfants de 0 à 4 ans, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils connaissent pas la peur.
Mmh.
Hein, on peut les pendre par les pieds en haut d'un pont, ils vont plus rire qu'avoir peur et être traumatisés. Donc effectivement, lorsqu'un chien envoie des signaux de menace, parce que là, effectivement, le chien montre qu'effectivement il n'est pas à l'aise en présence des enfants, l'enfant qui n'a pas peur va faire le pas de trop, je dirais, et il va se faire remettre à sa place. Mmh. Et ensuite, il y a une deuxième classe d'âge qui est l'apparition de la puberté chez l'enfant. Donc c'est à partir de 11-13 ans. Et là, effectivement, on a aussi des morsures qui sont en direction des enfants, tout simplement de cette tranche d'âge, parce que là, il y a un changement hormonal. Et effectivement, à partir de là, tu rentres véritablement dans ce qu'on appelle la meute mixte, d'accord? Puisque les chiens sont des animaux sociaux, ils font partie aujourd'hui de nos familles, ils vivent avec nous, donc effectivement, on se rappelle que c'est le travail des adultes que de recadrer les enfants. Donc là, effectivement, quand il y a un enfant qui devient adulte, là encore, ça pose des petits soucis. Alors, je vous dirais que Marie-Lise, moi, j'ai eu personnellement un dog allemand qui n'aimait pas les enfants. Il avait le droit. Il manifestait effectivement un inconfort en présence d'enfants. Et donc, lorsqu'il manifestait cet inconfort, je l'invitais tout simplement à aller dans son panier. Parce que dans le panier, mon chien était en sécurité parce que là, j'allais, moi, m'assurer qu'aucun enfant n'allait le perturber.
Mmh.
Ça veut dire que je ne l'ai pas isolé socialement, c'est-à-dire que je ne l'ai pas exclu carrément, comme vous faites actuellement, Marie-Lise, mais je lui ai montré que si tu n'es pas à l'aise, eh ben va dans ton panier, tu as une option, parce que là-bas, il ne t'arrivera rien. Ça veut dire que j'ai offert à mon chien un endroit où il peut être en sécurité, et c'est moi qui m'assure de sa sécurité.
Et il fait partie de la famille, il reste là.
Et je suis le protecteur de mon chien, mais comme je suis le protecteur des enfants. Et puis c'est à moi d'expliquer aux enfants qu'un chien, c'est pas forcément une peluche. Et vous savez, malheureusement, on est dans cette dérive anthropomorphique où on a des chiens. Faut comprendre que ce qu'on appelle la caresse ou les câlins, c'est pas dans le comportement des chiens. Mmh. Vous verrez jamais de chiens se faire des caresses. Ça n'existe pas en langage chien. Donc, il y a des chiens qui, par exemple, n'aiment pas qu'on les serre de trop. Parce que...
Ah oui, mais moi, je briefe les enfants et je leur dis de pas le calculer.
Alors, c'est même pas ne pas le calculer, c'est quand même, faut rester un peu prudent. On n'embête pas un chien qui mange, on n'embête pas un chien qui dort, si par exemple il y a des enfants, il faut enlever tout ce que le chien pourrait se mettre à vouloir protéger. Ça peut être ses jouets, vous savez. Hein, quand on va avec des enfants chez des amis qui ont des enfants et puis que le gamin il veut piquer le jouet de l'autre et que l'autre il dit, c'est mon jouet. C'est comme ça qu'on crée des tensions. Les tensions, elles apparaissent quand deux personnes veulent la même chose. Hein, donc effectivement, si le chien il est près de vous parce qu'il veut des câlins et qu'il veut vous, et si quelqu'un s'approche de vous, le chien il pourrait dire « c'est moi d'abord ». Vous voyez, donc c'est à nous d'être vigilants en ce sens, parce que moi je vais toujours prioriser les enfants et les humains, en tout cas sur les chiens. Hein. Mon chien a le droit de pas les aimer, mais il n'a pas le droit de les mordre. Et donc si, quand tu manifestes un signe d'agressivité, je vais simplement te sanctionner par un « va au panier ». Et va au panier, sous-entendu, si t'y vas pas, c'est moi qui vais me fâcher, là.
Ouais.
D'accord? Un peu comme deux enfants deviennent exécrables et puis qu'on en isole un, tout simplement, et tu reviendras quand tu seras calmé.
Et surtout, les enfants ne vont pas déranger le chien.
Et on ne dérange pas le chien, voilà. Il faut comprendre qu'il a le droit de pas aimer.
Ouais. Bon, c'est une solution.
Mon chien est heureux, hein. Le truc, c'est qu'il est sur son panier, hein, quand il grogne. Nous, on est à l'autre côté sur.
Et ben, donc, c'est peut-être, Marie-Lise, s'il grogne quand il est sur son panier, c'est peut-être que son panier n'est pas placé au bon endroit. Le panier d'un chien.
La maison, elle fait pas 400 mètres carrés.
Mais non, mais alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous savez, si on met le chien couché dans le couloir, par exemple, ou entre deux pièces, eh ben, à chaque fois qu'on va passer d'une pièce à une autre, on va passer devant lui. Et ça peut l'oppresser. Donc on met le chien dans un lieu calme, qui n'est pas un lieu de passage, et dans l'absolu d'où il peut pas non plus tout surveiller, et dans cet endroit, il ne doit strictement rien lui arriver. C'est-à-dire que si vous faites les gros yeux sur lui en disant « Oh, c'est quoi ce problème? Pourquoi tu menaces les enfants ?» Va au panier. D'accord? Dès qu'il est dedans, vous devez vous calmer à nouveau. Le panier, c'est l'endroit dans lequel on ne dérange pas un chien, ouais, ni pour l'engueuler, ni pour le caresser.
Et la solution de l'isoler, c'est, alors, en tout cas, c'est pas celle-là.
Ça résout pas le problème, ouais, parce que, au contraire, peut-être même que là, du coup, il manifeste cette agressivité pour qu'on l'isole pour avoir justement la paix. Les chics ouf. Ouais. Chics, ils arrivent et ouf, ils repartent.
Bon, Marie-Lise, on a essayé de donner une piste, ça va aller?
Ok. Hein, oui, on va travailler ça.
Merci à vous surtout.
Bonne fête, Pascal.
Voilà, vous aussi, bon week-end de Pâques. C'était Marie-Lise à Lambersart. Alors, si vous voulez faire comme Marie-Lise, on est là, hein. Enfin nous on est là, 03 20 55 89 89. Parce que j'aurais pu dire il y a pas un chien, mais c'est pas le cas, vous êtes très nombreux à nous appeler à chaque fois. Donc ça c'est très bien, 03 20 55 89 89. N'hésitez pas, prenez votre place. C'est jusqu'à 10h, donc ça passe vite, hein. Il reste 3 quarts d'heure. Pendant ce temps-là, on écoute aussi un peu de musique parce que c'est le week-end, c'est dimanche. Et là vous êtes en train de vous réveiller en vous disant mais quelle heure il est? Ah, 9h15. Ah d'accord. OK.
Un jour j'irai à New York avec toi. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque emmènera, emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs. Emmène-moi.
Voilà, c'était téléphone.
France Bleu Nord vous répond, côté expert.
Et justement, c'est Daniel qui est au téléphone, en direct avec nous à Noyelles-les-Vermelles, pour une conversation autour du chien, parce qu'on parle aussi de l'univers du chien. Bonjour Daniel.
Bonjour messieurs.
Bon,
bonjour,
alors Daniel, vous c'est un peu particulier, parce que c'est presque un coup de gueule que vous avez envie de lancer, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et je voudrais m'adresser plutôt ici à l'éducateur de maître qu'à l'éducateur de chien. Je m'explique, hein. Je marche régulièrement et ça m'arrive de rencontrer des maîtres et des chiens, bien évidemment. Hein. Mmh. Et ça m'arrive peu souvent parce que généralement les maîtres se conduisent très bien. Mais j'ai deux exemples courts à vous donner. Hein. Mmh. Le chien arrive en face de moi, tenu en laisse hein, par un maître. Hein. Et puis l'amical toutou bénéficie d'une laisse à rallonge. Mmh. Et s'avance, vous savez, la queue frétillante. Hein. Mmh. Le maître, absorbé par son téléphone, ne voit pas que la laisse s'allonge, mmh, permettant au gentil toutou de m'adresser un bonjour sautillant, hein, laissant des traces bien boueuses sur mes vêtements. Alors, ça, bon, c'est pas très grave, mais j'ai un autre exemple qui m'embête plus. Je me promenais avec mon petit-fils, hein, et en face, il y a une dame qui arrive avec un petit chat tenu en laisse, hein, mais arrivé à notre hauteur, le chien fait un écart et aboie, mais alors furieusement, sur mon petit-fils, bon, qui avait sur le moment à peur, hein, et la dame, sans un mot d'excuse, me dit d'un ton presque autoritaire, « Oh, mais vous savez, monsieur, hein, mon chien n'aime pas les enfants. »
J'ai déjà entendu ça aussi.
Et bon, c'est dommage, parce que je vous dis, hein, ce sont deux exemples, j'en ai d'autres, mais c'est une minorité, mais ça m'agace, quoi, parce que, bon, il y a encore les chiens, malheureusement, les maîtres qui laissent leur chien sans laisse, mais le chien n'a pas de rappel, et qui me disent, surtout, hein, n'ayez pas peur, monsieur, hein, mon chien n'est pas méchant.
Alors, je suis d'accord avec vous, Daniel. Néanmoins, je voudrais juste rappeler quand même que aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui impose la laisse. La laisse n'est pas obligatoire, à condition, bien évidemment, que le maire, lui, n'ait pas pris un arrêté municipal pour que, soit dans toute sa commune, soit dans une partie de sa commune, par arrêté, donc il décide que là, la laisse, les chiens doivent être tenus en laisse. Et à partir de là, donc c'est une réglementation, donc c'est au maire de la faire appliquer. Et donc, effectivement, s'il y a des soucis d'incivilité, eh ben, on décroche son petit téléphone, on appelle la police municipale et elle vient faire son taf. Mmh. Ensuite, je suis d'accord avec vous, les gens qui détachent leurs chiens et qui n'ont pas de rappel, faut l'avouer, Daniel, ont toujours cette fameuse excuse, il est gentil. Bah oui, mais pas toujours. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des têtes qui peuvent ne pas plaire, etc. Mais l'excuse, il est gentil, c'est bien pour se décharger de « j'ai pas de rappel ». Parce que quand vous dites « ce sont des maîtres », bah, je suis désolé, mais ils ont aucune maîtrise de leur chien d'ailleurs. Alors, moi, si j'avais été dans votre situation, je suis, vous êtes avec votre petit-fils, vous expliquez, il y a un chien qui s'approche et puis qui se montre un petit peu vindicatif. Bah moi, je vous ai dit, je suis d'abord le protecteur de mon fils. Mmh. Et donc déjà, je vais mettre mon petit-fils ou mon fils derrière moi. Hein, et c'est moi qui vais aller un peu, t'as un problème, vas-y, viens. C'est-à-dire qu'en gros, je vais là envoyer un message rassurant à mon fils. Je suis derrière papa, il va rien m'arriver. D'accord. Et c'est la même chose finalement si on remplace le mot petit-fils par mon chien. Parce que ce que vous venez d'expliquer, quand on promène et qu'on n'a pas de chien et qu'on promène avec un enfant, j'ai la même problématique quand je croise des chiens avec des chiens. Oh, il est gentil. Bah oui, mais moi, je suis en train de bosser avec des chiens qui le sont peut-être pas forcément. Ouais. Et peut-être que là, tu viens flinguer le travail que je suis en train de mettre en place. Donc moi, je vous avoue que aujourd'hui, quand je suis avec mon chien, si mon chien est en laisse, par exemple, et que je vais croiser un propriétaire d'un chien avec un chien qui n'a pas de laisse, quand le chien va s'approcher de moi, je vais lui foutre la trouille à son chien, hein, et je vais l'inviter vivement à faire demi-tour. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des attitudes menaçantes vis-à-vis de lui. Vous voyez ? Alors que vous, peut-être que votre intérêt, Daniel, c'est d'envoyer un message, parce que là, vous avez parlé du petit chien qui arrive la queue frétillante. Parfois, on a des chiens qui arrivent avec une queue bien droite au-dessus du dos et qui ont plutôt envie de nous casser la tête. Eh ben, à ce chien-là, forcément, si je lui envoie un signal de menace, on va se battre. Vous voyez, et ça, c'est peut-être pas non plus ce que je cherchais au départ. Alors, c'est ce que j'invite à faire, tout simplement, c'est parce que des fois, on me contacte, il y a des joggers qui me demandent comment je fais quand je croise un chien qui veut me bouffer. Eh ben, déjà, j'arrête de marcher, j'arrête de courir. Ouais. Et je vais en aucun cas fixer le chien dans les yeux. Parce que le fixer dans les yeux, c'est le provoquer, finalement. Alors, bizarrement, nous, humains, quand on a peur de quelque chose, eh ben, c'est quand on le voit plus qu'on en a peur. C'est, vous croisez une araignée dans votre chambre, c'est le temps que vous la voyez, vous savez où elle est. C'est ne plus la voir qui va nous inquiéter. Donc, c'est vrai que nous, quand on a peur, en général, on regarde un peu l'objet de nos peurs. Là, si je regarde le chien parce qu'il me fait peur, eh ben, je vais envoyer un mauvais signal. Par contre, le fait de sentir un peu la peur, faut pas oublier que le chien vit dans un monde olfactif. Si vous, vous envoyez un message de « Oh là, j'ai peur », eh ben le chien il va se dire je suis assez balèze, j'étais impressionné, j'ai donc pas besoin d'aller plus loin, voyez.
D'accord.
Voilà. Donc
enfin c'est bien parce que c'est une prise de conscience à travers le coup de fil de Daniel. Quand on promène son chien, il faut
C'est du civisme quoi. Moi quand je promène mes chiens, j'ai pas forcément envie que mes chiens, et d'abord je veux pas que mes chiens ils aillent dire bonjour à tout le monde. Je veux surtout pas laisser croire à mes chiens que les autres sont plus sympas que moi. Vous voyez, c'est moi quand je promène mes chiens, c'est avec moi que j'ai envie qu'ils promènent, pas avec les autres.
Daniel, voilà.
Merci d'avoir fait passer le message.
Oh bah écoutez, on est là pour ça, vous savez, comme quoi, vous voyez, vous appelez, vous passez à l'antenne, il n'y a pas de souci. Voilà, on a le droit de s'exprimer. Merci Daniel, au revoir. Donc, deuxième Daniel, mais cette fois-ci côté féminin. Bonjour Daniel.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, en fait, j'avais trois chiens. Un braque que j'avais adopté petit, donc à 3 mois. Puis j'ai adopté une labrador qui avait déjà 6 ans, 1 an et demi après. Et il y a 2 ans et demi, nous avons adopté une malinois.
Ok.
Bon, voilà, on a dû faire son écolage parce que, bon, elle vivait en cage, voilà. Bon, c'est leur vétérinaire qui l'avait mis à l'adoption. Et donc, ben, on a perdu la labrador en décembre, elle avait 14 ans et demi. Et il y a 2 mois et demi, on a perdu le braque. Moi, je pense qu'il n'a pas fait son deuil, mais je ne sais pas si ça se passe comme ça pour les animaux. Mais bon, il a maigri beaucoup, voilà. Donc, on a perdu le braque en le fin février. Mmh. Et ici, la malinois refuse de manger. Les croquettes, elle n'y touche plus. On lui fait la même nourriture que nous. Une fois, elle mange, une fois, elle mange pas. Oui. Elle mange mieux quand les mêmes petits-enfants viennent, quand c'est eux qui s'en occupent. Mais elle nous fait la gueule, quoi. Bon, voilà. On est revenu sans nos chiens. Bon, on les a fait incinérer, mais bon, voilà. Et bon, elle comprend pas pourquoi elle se retrouve toute seule maintenant.
Ben, je dirais parce que peut-être que déjà à l'époque quand vous aviez les trois chiens, vous vous occupiez pas forcément très bien, j'allais dire, hein, de vos chiens. Vous savez, des fois on a un chien, il s'ennuie, donc je lui prends un deuxième chien. Mmh. Comme ça, ben, il s'ennuiera plus. Sauf que c'est pas de l'autre chien qui s'ennuyait, c'était d'abord de moi au départ. Et donc maintenant, au final, j'ai deux chiens qui s'ennuient. Et donc comme j'ai deux chiens qui s'ennuient, j'en prends un troisième. Et j'ai trois chiens qui s'ennuient. Et donc là, il y en a deux qui disparaissent, mais j'ai toujours ce chien qui s'ennuie. Et à mon avis, il s'ennuie, Daniel, parce qu'on s'occupe pas assez de lui. Vous avez vous-même...
C'est tout le contraire, parce que bon, on a un mobilhome à Berck-sur-Mer, donc on va avec eux à la plage, on jouait avec les trois, on les prenait en voiture partout avec nous. Mmh. Maintenant on est retraités, donc on s'en occupe énormément.
Oui.
Et on essaie de jouer avec elle, elle a tous ses jouets et tout, mais non. Quand on va à la plage, là elle court, mais bon, voilà.
Oui.
Mais c'est le problème de la nourriture.
Les jouets, encore une fois, il peut en avoir des tonnes. Si les jouets ne bougent pas, ils sont pas intéressants.
Ah oui, ça bien sûr, ça c'est sûr.
Votre chien, Daniel, ce qu'il a envie, c'est de jouer avec vous, pas de jouer tout seul.
Ah ben c'est ce qu'on fait, on joue avec elle, on va promener, à la plage on la laisse en liberté, bon ici on la prend.
Vous avez vraiment l'impression, Daniel, là aujourd'hui, de passer vraiment beaucoup de temps avec votre chien
Oui.
Parce que je vais essayer de comprendre un petit peu. Hein.
Parce que,
Pot-colle.
Mais oui, mais justement, Daniel... Daniel, un moment ou un autre, si elle a tout ce qu'elle veut quand elle veut, c'est pas non plus très sympa. Parce que c'est comme ça, justement, qu'on déclenche de l'anxiété. C'est-à-dire que, finalement, cette chienne se rend compte qu'il y a personne qui décide dans cette maison, c'est moi qui dois gérer. Je veux un câlin, je vais le chercher. Et si vous lui donnez, ben vous lui confirmez qu'elle a raison de réclamer. Ma grand-mère disait, arrête de réclamer, peut-être, tu l'auras. Là, oui, c'est la règle. C'est vous qui décidez quand est-ce qu'on fait des câlins, quand est-ce qu'on caresse, quand est-ce qu'on joue. Et effectivement, comme j'ai dit, le chien doit jouer avec vous. Vous prenez deux jouets de valeur identique. Vous prenez deux balles, par exemple. Vous en mettez une en mouvement. Elle va courir après cette balle. Oui. Eh ben, la balle qu'elle a dans la gueule, maintenant, on s'en fout. Vous, vous allez jouer avec la deuxième balle. Et c'est celle-là qu'elle va vouloir. Et quand vous donnez la deuxième balle, vous allez récupérer la première, et ainsi de suite. Et elle va comprendre que c'est avec vous qu'elle joue.
Ensuite, oui, c'est vrai, mais c'est ce qu'on fait, mais bon.
Ensuite, deuxième chose, comme on a dit, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer un Labrador, un Braque, avec un Malinois. Des Malinois, ce sont des chiens hyperactifs, qui ont besoin de dépenses physiques, mais surtout de dépenses intellectuelles. Ils ont besoin de réfléchir, ces chiens. Comprendre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir quelque chose. Et dès lors qu'ils se mettent à penser, ces chiens sont des machines extraordinaires.
Ah oui.
Ensuite, Daniel, moi je vais revenir sur un principe de base très simple. Aucun animal sur Terre en bonne santé se laisse mourir de faim. Par contre, effectivement, quand on est anxieux, quand on est dépressif, on mange moins bien. Donc il faut sortir ce chien de son anxiété. Et son anxiété, elle vient du fait que c'est elle qui gère un peu tout à la maison. Donc reprenez le contrôle de ce qu'on appelle les contacts sociaux. Tous les trucs qu'on fait en famille, c'est le chef de famille qui les déclenche. C'est moi qui décide quand est-ce qu'on va à la plage, c'est pas toi. C'est pas toi qui décide quand est-ce qu'on joue, c'est moi. Et donc, moi ce que le fait de lui donner de l'alimentation humaine, c'est-à-dire de lui vous risquez de provoquer
du riz, des pâtes, de la viande,
Mais comme je disais tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, les aliments industriels, les croquettes sont ce qu'on appelle des aliments complets dans lesquels vous retrouverez les protéines, les lipides, les glucides, les fibres, les minéraux et les vitamines. Tout ce dont votre chien a besoin pour son développement. Oui. D'accord? Quand vous faites des pâtes et du steak, eh ben, il manque des choses. Il manque les fibres. Vous pouvez pas garantir les minéraux. Vous pouvez pas garantir les vitamines.
Ça va une fois.
Et donc, il y a des carences. Ouais. On va créer des carences. Et donc, je suis pas surpris qu'un chien après se mette à maigrir. Mais, en plus, si on fait des pâtes et du riz, c'est du sucre. Donc, ça ne fait que développer encore une fois de l'énergie qu'il a besoin de dépenser tout de suite.
Ah oui, tout à fait.
Hein? Donc, aucun animal sur Terre ne se laisse mourir de faim. Donc, vous allez lui remettre ses croquettes. C'est un chien adulte, hein, donc aujourd'hui...
Oui, elle va avoir 6 ans.
Vous lui mettez son repas une fois par jour, le soir. Oui. Vous lui laissez la gamelle 5 minutes. C'est à elle de faire un choix. Elle mange ou elle mange pas. Tu manges pas ? Tant pis pour toi. Moi, je t'ai pas privé de nourriture, tu fais le choix de pas manger. Et vous allez ainsi travailler sur la récompense alimentaire, en fait, un peu la mettre en survie alimentaire. Oui. Un moment, c'est si tu manges pas, tant pis. Mais je t'ai pas privé de nourriture. Et vous lui remettrez donc que le lendemain. Si ça fait 48 heures qu'elle n'a pas mangé, je vous garantis. Et après, il ne faut pas tomber dans le chantage, dans le piège affectif. Hein, tu veux que maman te donne à la main? Parce que là, elle va vous remanger dans la main, Daniel.
Bon, c'est bien terminé avec le sourire, comme ça.
Hein, tu veux maman mettre ton assiette au micro-ondes? Tu veux maman te le réchauffe?
Bon.
Non, parce qu'on était sur le point d'aller en radoteur, mais notre deuil n'est pas encore...
Vous avez très bien compris le message que je vous ai envoyé au début.
Bon, Daniel, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais je vous laisse.
Oui, ben voilà, et joyeuse Pâques à tous.
Allez, joyeuse Pâques. 03, j'aime bien quand on termine comme ça avec du sourire. C'était Daniel, elle était en Belgique, à Paris, tiens. On nous écoute également en Belgique et on salue tous les Belges qui nous écoutent. 03 20 55 89 89. Petite pause.
Alors Véro, comment va ta maman ?
Elle est fragile, mais l'idée d'emménager prochainement dans la résidence Eurus à Béthune, ça nous rassure toutes les deux.
Résidence Eurus ? C'est nouveau, non ?
Oui, c'est une résidence service senior humaine et chaleureuse qui ouvre l'été prochain à proximité du centre-ville de Béthune. Les appartements sont tout confort et l'équipe très attentionnée.
C'est super ! Et on peut visiter la résidence ?
Bien sûr, et il y a un appartement témoin.
Eurus, vieillir à la bonne heure. Eurus, Eurus.com.
Nos terres agricoles subissent déjà les conséquences du changement climatique. L'agroforesterie est une solution qui associe la plantation d'arbres aux activités agricoles existantes. Laurent Isambert, agriculteur, nous en parle.
J'ai planté une première parcelle, donc on a entouré de haies. Pour moi, l'agroforesterie répond à pas mal de ces enjeux, que ce soit en termes de biodiversité ou d'excès climatique.
La Fondation Goodplanet soutient la transition agroécologique. Pour nous aider, rendez-vous sur goodplanet.org.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici,
On parle d'ici.
Alors, on entame cette nouvelle demi-heure avec vos appels. Donc j'insiste là-dessus. Dépêchez-vous, 03 20 55 89 89 si vous voulez parler à Bertrand Bunce, comportementaliste pour chien, si vous avez des questions à lui poser. Il est l'heure de la chanson de votre vie. Parce que vous savez qu'une fois au moins, voilà, cette chanson qu'on va écouter, vous l'avez chantée dans votre vie. Et c'était en 1985. Et une petite anecdote sur cette chanson de Niagara avec Cheeky Boom. Et à Étienne Dao qui fait les chœurs également dans cette chanson. Écoutez, la voici, la chanson de votre vie. Chanson de votre vie, Niagara avec Cheeky Boom.
France Bleu Nord vous répond, côté expert.
Tiens, on avait une auditrice qui nous appelait de Belgique avec son chien belge. Est-ce que le chien belge peut communiquer avec le chien français?
Oui, bien évidemment.
Ouais, d'accord. C'est le même langage, hein, de toute façon.
Mais voilà, c'est extraordinaire. Parce que les chiens, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur race, ils parlent tous la même langue. Mmh. Alors après, il y a des petites notions, un peu ce qu'on pourrait comparer, nous, à des accents. Parce qu'effectivement, entre un chien qui a les oreilles, ce qu'on appelle un port dressé, hein, comme les bergers allemands ou les bergers belges malinois, justement, ou les chiens type Basset-Hound qui ont les oreilles tombantes, ça veut pas forcément dire la même chose quand un chien a les oreilles dressées, quand un chien a les oreilles baissées. C'est la même chose avec ce qu'on appelle les lupoïdes, hein, les chiens qui ont un museau plutôt allongé, type loup, ou qui rencontrent, par exemple, un brachycéphale, donc un bulldog. Parce qu'effectivement, lui, déjà, vous savez, ce qu'on appelle montrer les dents, l'extériorisation des dents, on a des races de chiens aujourd'hui, on a créé, programmé génétiquement pour qu'ils aient les dents extériorisées. Les bulldogs anglais, Quand on les regarde, on a l'impression qu'il pleut dans sa bouche. Hein, vous voyez. Donc effectivement, quand deux chiens se croisent, effectivement, pourquoi celui-là m'envoie, il me montre les dents, est-ce qu'il a l'air agressif, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important que les chiens, quand ils sont dans leur période de sociabilisation, ils côtoient un maximum de races. Parce que là, on vient de parler des dents ou des oreilles, ou enfin du type de le brachycéphale, l'hupoïde. C'est la même chose avec un chien qui a une queue, celui qui en a pas. Donc tout ça, parce que chez le chien, en fait, le langage, il est non-verbal. Voilà, le chien communique avec son corps tout entier. Et c'est tout, donc, dans cette analyse, nous, c'est un peu ce qu'on fait quand on bosse avec des chiens, on les observe et on regarde ce qu'ils nous disent avec la queue, le port de tête, le port de queue, le port d'oreille, etc. Parce que c'est toutes ces petites subtilités qui traduisent un état émotionnel chez le chien.
Alors on a souvent remarqué, alors vous pouvez nous appeler, d'ailleurs il y a Sylvie qui est là au bout du fil et je reviendrai deux secondes sur tout ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure, notamment sur le fait que c'est l'analyse qu'on en fait quand on écoute l'émission. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, je sais pas comment je peux dire, d'humaniser un peu l'animal, c'est-à-dire moi je ferais ci, alors le chien à mon avis fonctionne comme ça aussi. Il y a une différence entre la façon de faire d'un chien et la façon de faire d'un humain.
Ouais, alors il y a quand même beaucoup de similitudes.
Oui,
tous les deux sont des espèces sociales. Et puis parce que éduquer, encore une fois, c'est la même chose que choisir chez un enfant ou chez un chien. Ça veut dire que tout simplement, on va mettre aussi un peu des règles et des limites. C'est quand il n'y a pas de règles que c'est pas sécure. Quand il y a des règles, c'est sécurisant pour tout le monde.
Quand il n'y a pas de barrière, ça déborde.
Ben oui.
Voilà. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Annelin. Question concernant votre chien, donc.
Donc en fait, j'ai un chien, c'est un berger allemand.
Oui.
11 mois. J'ai fait appel à un dresseur particulier au début pour lui apprendre la base, en fait. Donc oui. À ce niveau-là, il obéit très bien.
Oui.
Sauf que quand on sort maintenant, il est extrêmement fou.
Alors.
C'est-à-dire, il tire. Dès qu'il voit un chien, il va lui dire bonjour.
D'accord.
Dès qu'il voit du monde trop autour de lui, il est perdu, il ne sait plus où aller.
Ok, alors pour être honnête Sylvie, je vous entends un peu mal. Donc vous avez un berger allemand de 11 mois avec lequel vous avez pris des cours d'éducation canine.
Oui.
Donc vous me dites à la maison tout se passe bien, mais dans la rue ça va plus.
Voilà, c'est ça.
Ok, si par exemple là Sylvie, je vous demandais de vous mettre debout en plein milieu de votre salon et de dire à votre chien au pied, est-ce qu'il va venir spontanément se mettre à côté de vous?
En fait, des fois, il est un peu têtu. Alors, des fois, il le fait.
Non, Sylvie, il est pas têtu. Oui. Il est plus patient que vous. Non, mais donc, ma question, c'est est-ce que quand vous mettez au milieu de votre salon et que vous lui dites au pied, est-ce qu'il va venir se mettre au pied?
Non, pas spécialement. Non.
Donc, votre éducateur canin vous a appris quoi?
En fait, il est assis, marcher au pied quand il en a envie, on va dire.
Eh ben oui, donc c'est que c'est... Alors soit, ça veut dire que j'ai pas assez renforcé la marche au pied, je l'ai pas assez récompensé, parce qu'à un moment... alors après, il faut pas non plus récompenser toute la vie, hein. À un moment, il faut savoir se passer de la récompense.
Oui.
D'accord ? La plus belle récompense pour votre chien, c'est vous.
Oui.
Hein ? Donc, le problème, c'est qu'effectivement, déjà, vous savez, quand on m'appelle, on me dit « mon chien, il obéit pas ». Il désobéit, plutôt. C'est que juste, je lui ai pas appris... c'est pas parce qu'il l'a fait trois fois qu'il sait le faire.
D'accord.
Vous voyez ? Donc, comme je disais, c'est comment on va apprendre au pied à votre chien ? Au pied, c'est un mot. D'accord ?
Oui.
Vous pourriez très bien apprendre à votre chien à marcher au pied en disant cacahuète. C'est-à-dire que votre chien, lui, n'a pas le sens des mots. Donc nous, on blablate à notre chien, on lui fait des phrases avec un verbe, un sujet, un complément, et presque parce qu'il le fait pas, on va employer des synonymes. Oui. Vous voyez ? Allez, au pied, dépêche-toi, allez, viens ici. Ça a plus de sens pour un chien.
Oui, il est perdu, en fait, oui.
Voilà, donc un mot correspond à une position. Donc là, par exemple, la position au pied, c'est quand tu es à côté de moi, à côté de ma jambe.
Oui.
Le problème, c'est que si à un moment, on lui dit « c'est bien », je le récompense.
Oui.
Donc en gros, vous le payez, quoi. C'est un peu comme si vous le payez. Et quand on paye, c'est que le travail, il est fini.
Oui.
Donc pourquoi je resterai au pied puisque tu m'as payé? C'est que c'est fini. Moi, quand je paye mon coiffeur, c'est fini.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut apprendre aussi la durée d'un ordre, qu'un ordre doit rester stable dans la durée. Ça veut dire que je dois commencer à récompenser de moins en moins fréquemment. Enfin, pas de moins en moins fréquemment, mais de moins en moins vite. C'est-à-dire que, par exemple, Pour apprendre un nouveau mot à un chien, au départ, on ne parle pas. Ça ne sert à rien de lui dire au pied, puisque c'est un mot qu'il ne comprend pas. On ne va donc lui dire au pied que lorsqu'il est au pied. Donc, un moyen très simple de mettre un chien au pied, s'il est joueur, vous prenez son jouet favori, vous lui dites « Eh mon pépère, tu le veux ?» et vous allez leurrer le chien. C'est-à-dire qu'avec la balle, vous allez l'attirer pour le mettre dans la position que vous souhaitez, la position donc au pied, ce qui deviendra demain un ordre. Maintenant qu'il est au pied, eh ben oui, vous allez donc marquer son comportement. Et quand votre chien, il aura compris que quand vous dites oui, il est récompensé. Oui exprimera donc la fin d'un commandement. Et ben maintenant, donc je vais arrêter de dire oui tout de suite, je vais commencer à dire oui au bout de 2 secondes, puis oui au bout de 5 secondes, puis oui au bout de 30 secondes, et votre chien, ben, il aura compris qu'il doit rester 30 secondes au pied avant que vous disiez oui. Et voilà, comme ça, vous allez inscrire de la durée dans vos ordres. Mais, et donc, maintenant, quand vous allez le mettre en laisse, tout simplement, quand il va se mettre à tirer, dès que la laisse se tend, vous vous arrêtez de marcher, vous invitez votre chien à venir se remettre au fameux au pied, vous allez lui dire « c'est bien, mon pépère continue », et vous reprendre votre marche. Il retire, je m'arrête, tu reviens au pied, on redémarre. Parce que là, la plus belle récompense pour lui, ce sera d'avancer.
Oui. C'est sûr.
D'accord. Et moi, je dis toujours que ensuite, la plus belle récompense que vous offrirez à votre chien au cours de vos balades, Sylvie, eh ben, c'est la liberté. Mais la liberté, il ne la gagnera qu'à la condition que quand vous lui dites au pied, il vienne au pied. Quand on dit à ses enfants, tu peux sortir, mais tu reviens à telle heure, eh ben, s'il revient à l'heure, il a gagné la liberté. Tu reviens pas, eh ben, tu sors plus. Je ne te détache plus. Vous voyez, pour que la liberté devienne la plus belle des récompenses que vous pourrez lui offrir.
D'accord. Donc en fait, il faut que je réinsiste en fait sur le fait de dire au pied et
ne dire au pied dans un premier temps que lorsqu'il est au pied.
Et exercice à répétition.
Et à répétition, bien évidemment.
D'accord.
Ça va aller, Sylvie ?
Ok, bah oui, on va essayer.
Votre chien ne sait pas faire. Apprenez-lui.
D'accord.
Bon,
okay. On a un week-end férié.
Il rigole pas, Bertrand.
Non, mais Sylvie, c'est pas insurmontable. Ça, votre chien, si vous faites ça 3 fois par jour pendant 5 minutes, à la fin de la semaine, il marche au pied, votre chien. Je viens de passer la semaine dans un refuge à Béthune, un refuge pour animaux, pour travailler les chiens, les conditionner, les coder. En une semaine de temps, on est parti de chiens qui ne connaissaient rien, voire qui nous montraient les dents quand ils étaient derrière la grille. On se met devant la grille, on les invite à aller sur leur panier, ils vont à leur panier, ils nous laissent rentrer dans le box, s'enlever de leur panier, on peut leur mettre une laisse, et ils nous demandent la permission, on peut sortir maintenant.
Changement de comportement, oui.
5 jours, on a conditionné les chiens en 5 jours, en partant de rien, et sans leur dire un mot.
Donc c'est possible, Sylvie.
Okay. Ouais, parce qu'en fait, je me demandais s'il fallait pas en fait faire des cours collectifs, quoi, en fait, pour qu'ils prennent l'habitude
de
voir du monde.
Mais votre chien, il marche déjà pas au pied quand il n'y a pas de chien, pourquoi vous mettre une difficulté supplémentaire ?
Voilà.
Ah, ok, d'accord. Voilà.
Vous intégrerez des cours collectifs quand déjà il marchera au pied quand il n'y a pas de chien.
Bon, Sylvie, vous me faites rire, Bertrand, à chaque fois.
Mais tant mieux, mieux ça que vous faire pleurer.
Mais je passe toujours un bon moment, ça fait plaisir. Sylvie, je suis obligé de vous laisser.
Merci
pour cette question qui sert à d'autres, évidemment.
J'essaye d'être généraliste en même temps.
C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Merci Sylvie, bon week-end de Pâques.
Bon week-end, au revoir.
Au revoir, Stéphane. Et cher. 0320 55 89 89. Il nous reste encore peut-être une place, non, je ne sais pas, j'ai pas regardé mon écran. 0320 55 89 89. Two people in a room. C'est exactement à peu près ça. On est 2-3 là, ici dans le studio. Là.
Cut down to the bone. Leave me all alone. 'Cause a knife is too sharp. A knife is too sharp, baby. The day I met you, you took away my blues. But I don't wanna fall in love with you. 'Cause one day I'll sing the same sad song for you. My heart, you're all I need tonight. At least
In a room. Stéphane Echer sur France Bleu.
France Bleu Nord vous répond, côté expert.
Alors on est dans une émission, on parle de chiens, mais vous n'allez pas me croire, on était en train de parler de barbecue, il y a rien en antenne. Bertrand qui me confiait qu'il allait éventuellement se lancer dans l'aventure d'un barbecue aujourd'hui.
Bah ouais,
vous savez que c'est Pâques aujourd'hui. Pourquoi pas. Hein. Voilà, Marie-Hélène est avec nous à Waterloo. Certainement, vous êtes la dernière, je pense, Marie-Hélène, à nous appeler. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous concernant votre chien? Déjà, c'est quelle race?
Oh, c'est un petit bâtard.
D'accord, ok.
Je sais pas quelle race, c'est un petit bâtard.
Bon, moi je disais toujours, j'en avais un aussi à la maison, et il avait le nez renfoncé comme ça, et je disais, c'est un bâtard croisé avec un coin de porte. Alors, Marie-Hélène, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, finalement?
Alors, moi, il s'installe tranquille sur mon petit cabriolet. C'est un petit fauteuil.
Oui.
J'en ai deux, mais bon, il prend l'un ou l'autre. Hein.
Okay.
Et il sait qu'il ne peut pas, parce que dès que je descends, bah, il descend.
Okay.
Mais dès qu'il peut, en fait, il s'y installe.
Non, disons qu'il ne peut pas quand vous êtes là, mais quand vous avez le dos tourné, il s'autorise.
C'est ah plutôt... oui, oui, oui.
Voilà, donc c'est que, concrètement, c'est que ce n'est pas interdit. Sinon, il se permettrait pas de le faire également en votre en votre absence. Hein. Donc, mais là, comme c'est pas très très clair, c'est au cas où j'aurais pas le droit.
Mmh.
Et ça veut dire que je pense en fait, vous avez déjà eu l'occasion de le punir quand il monte dessus devant vous?
J'attrape, oui, oui, j'attrape et je lui dis au panier et il va à son panier. Hein.
D'accord.
Oh, c'est un vicieux en plus.
Oui, voilà.
Ouais,
voilà.
J'ai compris. Ouais.
Et le pire, c'est que de temps en temps, en fait, comme je mets des coussins dessus. Il est fichu de prendre le coussin, de le mettre par terre et d'être couché sur le coussin.
D'accord. Oui, mais bah, je vois bien.
Je vois l'image.
Oui, moi j'ai le même genre de chien, hein, mais alors sauf que moi ils ont le droit de monter dans le canapé parce que personnellement je vais jamais dedans. Ou accessoirement faire une petite sieste quand il m'est possible. Bon, comment faire en sorte qu'un chien arrête de monter sur un fauteuil? Eh ben, il faudrait qu'on rende le fauteuil inconfortable.
Ah ben j'ai acheté des espèces de grilles en petit pic en plastique que j'ai trouvé sur internet.
Oui.
Et bon, quelquefois ça lui arrive de pousser la grille avec sa truffe.
Ok.
Parce qu'on a mis des petites caméras donc on le voit. Et puis hop, il se réinstalle, tranquille.
Bon. Petite astuce, Marie-Hélène. Vous allez prendre une toile cirée, une nappe ou une bâche en plastique, enfin bref, quelque chose juste pour protéger un petit peu vos, vos cabriolets. Et vous allez mettre une serviette mouillée dessus.
D'accord.
Vous iriez dormir, vous, dans des draps mouillés, si vous avez l'option de dormir dans un lit sec?
Non.
Bah voilà, donc on va essayer de rendre un peu le canapé inconfortable, pour que tout simplement ils disent, bon bah, fou, c'est pas terrible d'aller se coucher là finalement, ou pourquoi pas, hein, vous savez, puisqu'il le fait en votre absence, donc on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent, hein, et bah les souris, on les attrape avec des tapettes à souris.
D'accord.
Et si vous mettiez quelques tapettes à souris, alors bien sûr vous enlevez le clou, on n'est pas des barbares. Hein, donc, et le but du jeu, voilà.
La serviette mouillée, ça me paraît pas mal, je pense.
Ouais, la petite serviette mouillée. Sinon, vous prenez par exemple un peu du papier scotch, vous savez, les rouleaux marrons, là, machin. Vous les pliez un petit peu, histoire de faire une boule qui va un peu se coller sur lui si jamais il monte dessus.
Ah, c'est bien ça aussi.
Des trucs comme ça quand il balade, qu'il y a des herbes qui se collent sur lui ou des trucs comme ça.
Voilà, donc c'est juste, en fait, c'est. Vous voyez bien que le but du jeu, c'est pas faire mal à votre chien, mais c'est rendre le canapé inconfortable pour qu'il se dise finalement, mon petit panier, il était pas mal confort.
Hein. Et ça marche avec les humains aussi, hein, vous pouvez mettre des petites boulettes de scotch.
Mais on faisait ça à l'école, Manu, on mettait du fluide glacial sur la chaise des profs.
Oui. Non, c'est vrai que j'imagine mal le chien prendre la serviette mouillée avec sa gueule.
Bah, et c'est puis, c'est moins terrible, quoi.
Ouais.
Donc ça peut fonctionner.
Ça peut le faire.
Sinon, bah, et pourquoi pas un peu de papier aluminium, vous savez, alors, juste rendre le truc désagréable ou les espèces de couvertures de survie, voilà, que ça c'est pas terrible, quoi.
Il est dans la pièce, le chien, là, Marie-Hélène?
Ah, ils sont à côté, ils sont à deux. J'ai une femelle malinois et j'ai ce petit bâtard que j'ai récupéré plus tard.
Okay.
Mais la grande, elle le fait pas. Si, parfois sur le grand canapé, au début, j'étais à deux installés sur le grand canapé et maintenant ça s'est arrêté parce que bon, on met toujours une protection, donc c'est vrai que là, sur le grand, ils n'y vont pas. Mais c'est le petit cabriolet, du coup, le petit, lui, se rabat sur le petit cabriolet.
Alors, je rappelle que, voilà, on parlait tout à l'heure du canapé en introduction avec la première auditrice. La place d'un chien doit se trouver toujours plus basse que le maître. Donc effectivement, le fait de mettre le chien ici sur un canapé, c'est lui offrir un piédestal en fait. C'est un mirador d'où il peut tout surveiller. Et souvent d'ailleurs, les chiens qui accèdent, les petits chiens particulièrement, parce que avec les petits chiens on a plus de déviance qu'avec des gros, qu'on tolère moins vite dans notre canapé, on a très vite des chiens qui prennent possession des accoudoirs et des appuis-têtes. Pour être encore plus haut que vous. Hein, donc la place du chien, juste, on lui rappelle que c'est un petit peu plus bas que moi. Hein, puis,
J'imagine les deux chiens qui sont en train d'écouter Marie-Hélène.
Ils sont là à côté. Ouais.
En train de dire, on passe à la radio.
Sur leur panier, ils ont une espèce de trampoline, en fait. C'est pas un trampoline, mais c'est un truc comme un petit trampoline.
Ouais. Un peu comme les lits de camp.
Ils sont souvent à deux dessus, sauf que le soir, en fait, je me rends compte, quelquefois je redescends pour prendre une bricole ou remonter une bouteille d'eau, et puis l'autre, il est déjà installé sur
le
petit cabriolet, je
ne
sais pas.
Oui, bah ça va,
tout de suite. Hein.
Et donc là, concrètement, Marie-Hélène, la prochaine fois que vous le surprenez dedans, plutôt que lui demander de descendre, vous avancez vers lui et vous lui faites les gros yeux en essayant de bomber un peu le torse, là, vous voyez voilà. Et puis là, qu'ils se disent, oh là là, je crois que j'ai fait une boulette, je vais retourner dans mon panier, il ne m'arrivera plus rien.
Bon.
Okay.
Merci Marie-Hélène.
Merci, bon week-end de Pâques.
Eh bien, vous aussi. Et voilà, donc je disais, j'imagine les deux chiens qui sont en train d'écouter Marie-Hélène et en train de se dire, on est en train de parler de nous à la radio. Ouais. Ça doit être génial. Je sais pas s'ils nous ont écoutés, en tout cas. Merci Bertrand d'avoir participé à cette émission. C'est toujours un plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Alors, on fait comme ça.
Dans 15 jours.
Et puis, d'ici quelques minutes, c'est le grand agenda, bien sûr.